Chapitre 34. Contrepoint. Deux ou plusieurs chants dont les lignes mélodiques se superposent.
Hilde se redressa dans son lit. Ainsi se terminait donc l'histoire de Sophie et d'Alberto. Que s'était-il passé au juste? Pourquoi son père avait-il écrit ce dernier chapitre? Était-ce seulement pour faire étalage du pouvoir qu'il exerçait sur le monde de Sophie? Plongée dans ses pensées, elle alla s'habiller dans la salle de bain. Elle avala rapidement son petit déjeuner et descendit s'installer dans la balancelle du jardin. Elle était d'accord avec Alberto pour dire que la seule chose sensée de toute la fête avait été son discours. Son père voulait-il sous-entendre que le monde de Hilde était aussi chaotique que la fête de Sophie? Ou son monde à elle aussi allait-il finir par se volatiliser? Oui, ces deux-là, Sophie et Alberto, qu'était-il advenu de ce fameux plan secret? Était-ce à Hilde de continuer à inventer l'histoire? Ou avait-il vraiment réussi à s'échapper de la narration? Mais où était-il alors? Elle fut frappée par un détail. Si Alberto et Sophie avaient réussi à s'échapper de la narration, il ne pouvait plus rien y avoir d'écrit sur eux dans le classeur. Car tout ce qu'il y avait dedans, son père le savait par cœur. Mais pouvait-il y avoir quelque chose d'écrit entre les lignes? Il lui semblait avoir lu cette phrase quelque part en toutes lettres. Hilde comprit qu'il lui fallait relire toute l'histoire plusieurs fois.
Tandis que la Mercedes blanche débouchait en trombe dans le jardin, Alberto avait entraîné Sophie dans sa cachette. Puis, ils avaient traversé la forêt en courant et regagné le chalet. « Vite !» criait Alberto. « Il faut le faire avant qu'il ne parte à notre recherche. »«
Est-ce que nous avons échappé à l'attention du major maintenant ?»«
Nous nous trouvons dans la zone frontalière. »
Ils ramèrent jusqu'à l'autre côté du lac et se précipitèrent à l'intérieur du chalet. Alberto ouvrit alors une trappe et poussa Sophie dans la cave. Tout devint noir.
Les jours qui suivirent, Hilde peaufina son propre plan. Elle envoya plusieurs lettres à Anne Gvamsdal, à Copenhague, et lui téléphona aussi plusieurs fois. À l'île Sand, elle demanda l'aide de tous ses amis et relations, et presque la moitié de sa classe fut engagée à participer. De temps à autre, elle reprenait le monde de Sophie, car ce n'était pas une histoire dont on pouvait faire le tour en une seule lecture. Elle imaginait chaque fois une autre version de ce qui avait pu arriver à Sophie et Alberto depuis leur disparition à la fête. Le samedi 23 juin, elle se réveilla en sursaut vers 9 heures. Elle savait que son père avait déjà décollé du Liban. Il ne restait plus qu'à attendre. L'emploi du temps pour le restant de la journée de son père avait été minutieusement préparé dans les moindres détails. Dans le courant de la matinée, elle commença à préparer la soirée de la Saint-Jean avec sa mère. Hilde ne pouvait s'empêcher de penser à la manière dont Sophie, elle aussi, avait aidé sa mère à préparer sa fête. Mais tout ça, c'était du passé. Ou bien était-elle en train de mettre la table en ce moment précis?
Sophie et Alberto s'assirent sur une pelouse devant deux grands bâtiments avec d'affreux ventilateurs et bouches d'aération sur la façade. Une jeune femme et un jeune homme sortirent d'un des bâtiments. Lui portait une serviette marron et elle, un sac rouge en bandoulière. Dans une petite rue derrière eux, on voyait passer une voiture.
« Que s'est-il passé ?» demanda Sophie.
« Nous avons réussi. »«
Mais où sommes-nous ici ?»
À Majorstua.
Mais Majorstua, c'est le chalet du major?
C'est ici, à Oslo.
Tu en es sûr?
Tout à fait sûr. Ce bâtiment-ci s'appelle Châteauneuf. On y étudie la musique. Et celui-là, c'est la faculté de théologie. Plus haut sur la colline, on étudie les sciences de la nature. Et tout en haut, la littérature et la philosophie.
Est-ce que nous sommes sortis du livre de Hilde et échappons au contrôle du major?
Oui, jamais il ne pourra nous retrouver ici.
Mais où étions-nous quand nous avons traversé la forêt en courant?
Quand le major était occupé à faire s'écraser la Mercedes blanche du conseiller financier contre un pommier, nous avons saisi notre chance en nous dissimulant dans ta cabane.
Nous en étions au stade fœtal, Sophie. Nous appartenions à la fois à l'ancien et au nouveau monde. Mais il est impossible que le Major ait songé à nous cacher ici.
Pourquoi ça?
Il ne nous aurait pas lâchés si facilement. Ça a marché comme sur des roulettes. Encore que, on peut toujours imaginer qu'il est au courant et se mêle au jeu.
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
C'est lui qui a fait démarrer la Mercedes blanche. Peut-être qu'il a fait tout son possible pour nous perdre de vue. Il était peut-être au fond épuisé après tout ce qui s'était passé.
Le jeune couple n'était plus à présent qu'à quelques mètres d'eux. Sophie avait un peu honte d'être vue assise sur la pelouse avec un homme nettement plus âgé qu'elle. Elle avait surtout envie que quelqu'un lui confirme les propos d'Alberto. Elle se leva et alla à leur rencontre.
« Excusez-moi, mais comment ça s'appelle ici ?»
Mais ils ne lui répondirent pas et firent comme s'ils ne l'avaient pas vue. Sophie trouva que c'était de la provocation et repartit à l'assaut.
« Il n'y a rien d'extraordinaire à répondre à une question, que je sache !»
Le jeune homme était visiblement lancé dans une grande discussion avec la jeune fille.
La forme de composition contrapuntique travaille sur deux plans. Horizontal, c'est-à-dire mélodique, et vertical, c'est-à-dire harmonique. Il s'agit donc de deux ou de plusieurs chants dont les lignes mélodiques se superposent.
Excusez-moi de vous interrompre, mais...
Les mélodies se combinent de façon à se développer le plus indépendamment possible de l'effet d'ensemble, mais tout en respectant les lois de l'harmonie. C'est ce que nous appelons le contrepoint, ce qui signifie en fait note contre note.
Quel culot! Il n'était ni sourd ni aveugle.
Sophie fit une troisième tentative en leur barrant carrément le chemin.
Elle fut doucement poussée sur le côté.
« On dirait que le vent se lève, »
dit la femme. Sophie courut rejoindre Alberto.
« Ils ne m'entendent pas !»
s'écria-t-elle. Et au même moment, lui revint en mémoire son rêve de Hilde avec sa croix en or. « Eh oui, c'est le prix que nous devons payer. Quand nous nous échappons d'un livre, il ne faut pas s'attendre à réapparaître avec exactement le même statut que l'écrivain du livre. Mais nous sommes là, c'est ce qui compte. À partir d'aujourd'hui, nous aurons toujours l'âge que nous avions quand nous avons quitté la fête philosophique.
Mais nous ne pourrons jamais nouer de contact avec les gens qui nous entourent.
Un vrai philosophe ne dit jamais « jamais ».
Tu as l'heure? Il est 8 heures.
L'heure qu'il était quand nous nous sommes enfuis de la fête.
C'est aujourd'hui que le père de Hilde revient du Liban.
Aussi, il n'y a pas de temps à perdre.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Tu n'as pas envie de savoir ce qui va se passer quand le Major va rentrer à Birkeli?
Si, bien sûr.
Alors viens vite. Ils descendirent vers le centre-ville. À plusieurs reprises, ils croisèrent des gens. Mais tous marchèrent droit devant eux comme s'ils n'étaient que de l'air. Tout au long du trottoir, des voitures étaient garées les unes derrière les autres. Soudain, Alberto s'arrêta devant une voiture de sport décapotable rouge.
« Je pense que celle-ci fera l'affaire, » dit-il. « Il faut juste s'assurer que c'est bien notre voiture. »«
Je ne comprends plus rien. »«
Laisse-moi t'expliquer. »« Nous ne pouvons pas tout simplement prendre la voiture de quelqu'un ici en ville. »« Comment réagiraient les gens, à ton avis, s'ils voyaient une voiture rouler sans conducteur ?»« Une autre chose est que nous aurions beaucoup de mal à la faire démarrer. »«
Et cette voiture de sport, là ?»«
Je crois que je l'ai déjà vue dans un vieux film. »
« Excuse-moi, mais je commence à en avoir assez de toutes tes allusions plus obscures les unes que les autres. »
« C'est une voiture imaginaire, Sophie. Elle est exactement comme nous. Les gens qui passent ne voient qu'une place libre pour se garer. C'est la seule chose que je tiens à vérifier avant de partir. »
Ils attendirent un instant et virent un garçon foncer à bicyclette sur le trottoir. Il donna un brusque coup de guidon et descendit dans la rue en traversant la voiture rouge. « Tu vois ?» C'est bien la nôtre. Alberto ouvrit la portière avant droite.
Sois mon invité, dit-il. Et Sophie s'assit.
Il se mit au volant. Les clés étaient dessus et la voiture démarra sur le champ. Ils descendirent l'allée de l'église et arrivèrent sur la grande route de Dramen. Ils passèrent l'Isacaire et Sandvika. Ils voyaient de plus en plus de grands feux de la Saint-Jean, surtout après avoir dépassé Dramen. C'est la nuit du solstice d'été, Sophie. « N'est-ce pas merveilleux ?»«
C'est tellement agréable de rouler en décapotable et d'avoir le vent frais qui souffle au visage. Tu crois vraiment que personne ne peut nous voir ? »
sauf ceux qui sont comme nous. Nous en rencontrerons peut-être. Quelle heure est-il?
Il est 8h30.
Il va falloir prendre un raccourci. Nous ne pouvons pas rester indéfiniment derrière ce camion. Là-dessus, il bifurqua et s'engagea dans un grand champ de blé. Sophie se retourna et vit une large bande d'épis de blé couchés à terre après leur passage.
« Ils diront demain que c'est le vent qui a soufflé sur les champs », se contenta de dire Alberto.
Le major Albert Knag atterrit à l'aéroport de Copenhague à 4h30 ce samedi 23 juin. Il avait une longue journée derrière lui, ayant déjà, pour cette avant-dernière étape, pris l'avion à Rome. Il passa le contrôle des passeports dans son uniforme des Nations Unies, qu'il avait toujours porté avec grande fierté. Il ne représentait pas seulement lui-même, ni son propre pays, mais une organisation de droit international, une tradition centenaire qui englobait à présent toute la planète. Il portait juste un petit sac sur l'épaule, le reste de ses bagages ayant été enregistré à Rome. Il lui suffisait de brandir son petit passeport rouge. Nothing to declare. Le major Knag devait attendre presque 3 heures sa correspondance pour l'île Sand. Autant acheter quelques cadeaux pour sa famille. Le plus grand cadeau de sa vie, il l'avait envoyé à sa fille, voilà 2 semaines de cela. Sa femme, Marit, l'avait posé sur la table de nuit de sa fille afin que Hilde le trouve à son réveil le jour de son anniversaire. Depuis son coup de téléphone tard dans la soirée ce jour-là, il n'avait pas reparlé à Hilde. Albert acheta quelques journaux norvégiens, s'assit au bar de l'aéroport et commanda une tasse de café. Il était en train de parcourir les gros titres lorsqu'il entendit au haut-parleur.
Message personnel pour Monsieur Albert Knag. Monsieur Albert Knag est prié de contacter le comptoir SAS.
De quoi s'agissait-il? Albert Knag eut des sueurs froides. On ne lui demandait quand même pas de retourner au Liban. Où était-il arrivé quelque chose de grave à la maison? Il se présenta le plus vite possible à l'endroit demandé. « C'est moi, Albert Knag. »« Ah, très bien, c'est urgent. » Il ouvrit l'enveloppe sur le champ. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une autre enveloppe, plus petite, sur laquelle était écrit « Au major Albert Knag, au bon soin du comptoir d'information SAS à l'aéroport Kastrup, Copenhague. » Albert se sentit devenir nerveux. Il ouvrit la plus petite enveloppe. Elle ne contenait qu'un bout de papier. « Cher papa, je te souhaite la bienvenue. Quel bonheur de te savoir bientôt à la maison, après tout ce temps passé au Liban. Tu comprendras aisément que je n'en puisse plus d'attendre. Excuse-moi si j'ai été obligée de te faire appeler au haut-parleur, mais c'était plus facile ainsi. PS. Une demande de dommages et intérêts de la part du conseiller financier Inge Brixen concernant un accident survenu à une Mercedes volée t'attend à la maison. PPS. Je serai peut-être dans le jardin quand tu rentreras, mais il se peut que tu aies de mes nouvelles avant. PPPS. Tout d'un coup, j'ai un peu peur de rester trop longtemps dans le jardin. Dans ce genre d'endroit, on peut si facilement disparaître sous terre. Ta petite Hilde, qui a eu tout le temps nécessaire pour se préparer à ton retour. » Le major Albert Knag ne put tout d'abord s'empêcher de sourire. Mais il n'aimait pas se sentir manipulé de cette façon. Il aimait garder le contrôle de sa propre existence. Et cette coquine de fille prétendait diriger ses faits et gestes depuis l'île Sand. Mais comment s'était-elle débrouillée? Il glissa l'enveloppe dans une des poches de sa veste et commença à flâner dans les boutiques de l'aéroport. Au moment où il s'apprêtait à entrer dans le magasin vendant les produits danois si prisés en Norvège, son regard tomba sur une petite enveloppe collée sur la vitre. La mention « Major Knag » y était écrite au feutre épais. Il déchira l'enveloppe et lut « Message personnel à l'intention du Major Albert Knag, au bon soin du magasin d'alimentation, aéroport de Kastrup, Copenhague. » « Cher papa, j'aimerais bien que tu achètes un grand salami, pourquoi pas même 1 de 2 kilos. Quant à maman, elle apprécierait certainement une saucisse au cognac. PS, le caviar de Limfjord n'est pas mal non plus tout compte fait. Hilde qui t'embrasse. » Albert Knag regarda autour de lui. Elle ne pouvait quand même pas être là, à proximité. Sa mère lui aurait offert un voyage à Copenhague pour qu'elle vienne à sa rencontre. C'était pourtant bien l'écriture de Hilde. D'un seul coup, l'observateur de l'ONU se sentit lui-même observé, comme s'il était manipulé de loin. Il se sentait comme une poupée entre les mains d'une enfant. Il entra dans le magasin et acheta un salami de 2 kilos, une saucisse au cognac et 3 pots de caviar de Limfjord. Puis, il continua son chemin, car il avait l'intention de trouver aussi un vrai cadeau d'anniversaire pour Hilde. Que dirait-elle d'une machine à calculer? Ou d'une petite radio de voyage? Oui, ça c'était une bonne idée. En arrivant à la boutique qui vendait les Chenifi et tous les gadgets électroniques, il constata que là aussi, une petite enveloppe était collée à la vitre. Major Albert Knag, au bon soin de la plus intéressante boutique de l'aéroport. À l'intérieur de l'enveloppe blanche, le petit mot disait « Cher papa, tu as le bonjour de Sophie, qui tient à te remercier pour le mini-poste de télévision combiné avec une radio qu'elle a reçue pour son anniversaire de la part de son généreux papa. C'était une folie, mais d'un autre côté, ce n'était qu'une bagatelle. Je dois avouer que je partage avec Sophie le goût pour ce genre de bagatelle. P.S. Si tu n'y es pas encore allé, tu trouveras d'autres instructions dans le magasin d'alimentation et dans la grande boutique Fritax où l'on vend les alcools et les cigarettes. P.P.S. J'ai reçu de l'argent pour mon anniversaire et je peux participer à l'achat du combiné télévision-radio à hauteur de 350 couronnes. Hilde, qui a déjà farci la dinde et préparé ta salade Waldorf préférée. La mini-télévision coûtait 985 couronnes danoises. Ce n'était rien, comparé à l'état dans lequel se trouvait Albert Knag, ballotté dans tous les sens, selon le bon vouloir de sa fille. Était-elle là, oui ou non? Il commença à se retourner tous les 5 pas. Il se sentait à la fois espion et marionnette. Ne lui avait-on pas volé sa propre liberté d'homme? Il fallait aussi qu'il aille à la boutique Fritax. Il y trouva une nouvelle enveloppe à son nom. Tout l'aéroport n'était plus que l'écran d'un gigantesque ordinateur où il jouait le rôle de la souris. Le mot disait « Major Knag, au bon soin de la grande boutique Fritax de l'aéroport. Tout ce que je désire ici, c'est un paquet de chewing-gum et quelques boîtes de chocolat Antonberg. Tout ça est tellement plus cher en Norvège. Si mes souvenirs sont bons, maman aime bien le Campari. P.S. Garde tes sens bien en éveil sur le chemin du retour. Je suis sûre que tu n'aimerais pas manquer quelques précieuses informations. Ta fille Hilde, qui, comme tu le vois, a beaucoup appris. » Albert Knag poussa un soupir de découragement. Puis, finit par entrer dans la boutique. Mais il n'acheta que ce qui lui avait été demandé. Chargé de 3 sacs en plastique, son bagage sur l'épaule, il se dirigea enfin vers la porte 28 pour attendre l'embarquement. Tant pis s'il restait encore des petits mots quelque part. Mais sur une colonne, à la porte 28, l'attendait encore une enveloppe blanche. Au Major Knag, au bon soin de la porte 28, aéroport de Kastrup, Copenhague. C'était encore l'écriture de Hilde. Mais on aurait dit que le numéro de la porte avait été rajouté par quelqu'un d'autre. Il n'y avait aucun moyen de le savoir, car comment comparer des lettres avec des chiffres? Il la prit et l'ouvrit. Le mot disait seulement « C'est bientôt terminé ». Il s'enfonça dans un fauteuil, le dos bien calé, tout en gardant ses sacs en plastique serrés contre lui sur les genoux. C'est ainsi qu'un fier major resta assis à regarder tous les passagers comme s'il était un enfant qui voyageait seul pour la première fois de sa vie. Si jamais elle était ici, il n'allait pas lui faire le plaisir de la laisser l'apercevoir la première. Inquiet, il dévisageait tous les voyageurs au fur et à mesure de leur arrivée. Il avait l'impression d'être un ennemi étroitement surveillé par les services secrets du pays. En montant enfin dans l'avion, il poussa un soupir de soulagement. Il fut le dernier à embarquer. En remettant sa carte d'embarquement, il trouva une dernière enveloppe collée sur le comptoir.